Session de théologie par le père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 23 août 1993.
Oui, on est très heureux de vous accueillir, tous, et d'essayer ensemble de rechercher cette vérité sur celui que le Christ nous envoie, le Paraclet, l'Esprit de vérité, celui qui nous mène à la vérité tout entière. Donc voyez, c'est très curieux et très intéressant de voir comment cette recherche de la vérité nous ouvre tout grand à l'Esprit Saint qui nous conduit à la vérité tout entière. Et une vérité qui est très spéciale, qui n'est pas la vérité philosophique, qui est la vérité divine, qui est la vérité qui est Dieu, puisque l'Esprit Saint est Dieu. Ceci montre combien la théologie de l'Esprit Saint, ce que nous essaierons de faire ensemble, est le sommet de la théologie. Théologie du Père, théologie de l'Esprit Saint. C'est, on ne peut pas dire complémentaire, parce que ça, mais c'est un. Alors je peux dire que le sommet de la philosophie, de la théologie, c'est vraiment le regard sur le Père. Et je peux dire que le sommet de la théologie, c'est le regard sur l'Esprit Saint. Et pour comprendre ce sommet, il faut nécessairement regarder le Fils. Toujours, le mystère de la très sainte Trinité est pour nous ce qu'il y a d'ultime, auquel on revient tout le temps. Et qui est ce qui, pour nous, est ce qu'il y a de plus concret. C'est ça dont on a beaucoup de peine à comprendre. On a beaucoup de peine à comprendre que la foi est une connaissance divine qui dépasse toute l'abstraction. Notre manière de connaître, notre langage reste abstrait parce qu'il est humain. Mais la réalité que nous touchons par la foi est une réalité concrète, plus concrète que nous-mêmes, plus concrète que tout ce que nous appelons nous de concret. Et c'est peut-être le jour où on comprend ça que la théologie devient alors pour nous une vraie théologie contemplative. La contemplation de la très sainte Trinité est la vraie contemplation, l'ultime contemplation, et la contemplation la plus concrète, la plus réaliste. Évidemment, le mot concret prend une signification nouvelle. Dieu est la res. Au dire de saint Augustin, il est la réalité. Or, quand je parle de concret, je parle de réalité. Et d'abstrait, je parle de quelque chose qui n'est pas immédiatement la réalité, qui est une réalité que nous découvrons à travers notre intelligence et à travers la transformation de la réalité par l'intelligence. Je crois que tous, parmi vous, vous savez ce que c'est que la théologie. Il est quand même bon d'en dire un mot tout de suite au point de départ pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Il y en aura toujours. Mais au moins, je vous aurai donné ça au point de départ. Et je vous reverrai. Nous aimons beaucoup. Et nous le disons au point de départ de la règle de la famille Saint-Jean. Nous aimons beaucoup les trois sagesses. Sagesse philosophique, sagesse théologique, sagesse mystique. Et la petite Marthe aimait beaucoup la distinction de ces trois sagesses. Je l'ai su par le père Finet. Elle a dit au père Finet, « Ah, c'est très beau ces trois sagesses, ça met tout en ordre. » Quand on entend ça de la petite Marthe, petite paysanne, et vraiment une amie de la petite Thérèse. La petite Thérèse lui avait dit, et je crois que c'est vrai, parce que Marthe n'était pas romantique pour un sou. C'était ce qui désarçonnait complètement les gens qui venaient le voir. Et qui faisait que certains disaient, mais Marthe, c'est le bon sens.
Ouais.
Parce qu'elle n'est pas romantique. C'était pas le bon sens. C'était le sens de Dieu. C'est pas la même chose. Parce que le bon sens, c'est Descartes. Hein. Tandis que le sens de Dieu, c'est Dieu. C'est quelqu'un qui avait ce regard très vertical sur Dieu. Et Marthe disait, donc, que la distinction de ces trois sagesses mettait tout en ordre. J'étais très heureux d'entendre ça, dit par le père Finet. Parce que ça prouvait qu'il y avait là, pour nous, une distinction très importante à faire. La recherche philosophique, c'est l'autonomie de l'intelligence. C'est pour ça que la recherche philosophique est capitale dans notre monde d'aujourd'hui pour relativiser la psychologie. Autrement, s'il n'y a plus la philosophie, l'absolu, c'est la psychologie. On le sait. Puisque chez certains, même le discernement des vocations religieuses se fait par la psychologie. Or, le discernement des vocations religieuses ne se fait ni par la sagesse philosophique, ni par la théologie, mais par la sagesse mystique. Il n'y a pas d'autre discernement de la vocation religieuse. Après, on peut faire appel à d'autres choses, mais savoir si on est appelé par Dieu pour consacrer toute sa vie à Dieu, seul le Christ en décide. Il regarda le jeune homme, il l'aima et lui dit, suis-moi. C'est simple, très vite fait. Jésus n'a pas appelé, Pierre, viens un peu, hein. Est-ce que c'est un bon gars celui-là ? Non, le regard du Christ, direct. Et au fond, toute vocation, et là. Et le jour où on perd ça, on n'a plus de vocation. C'est curieux. Hein? Mais c'est très très important de rappeler ça. Et Marthe avait ce sens-là. La vocation religieuse, apostolique, contemplative, se décide auprès de Dieu, auprès de Jésus. Comme au fond, l'engagement. jugement même du mariage, qui implique un engagement absolu. Alors, si on est chrétien, ça se décide auprès de Jésus. Pas autrement. Parce que il y a un sacrement. Donc Jésus intervient directement. L'amitié humaine, c'est différent. Il n'y a pas de sacrement. Jésus donc nous dit, mais tu es capable de choisir, choisis. Ah, si tu veux me demander conseil, je serai là, je t'éclairerai. Mais autrement. Et dans la vie religieuse, comme c'est un engagement vis-à-vis de la vie éternelle, tout de suite, Jésus, avec la foi. Alors, ces trois sagesses, il faut bien les saisir. Parce que on pourrait dire qu'on pourrait parler de trois façons sur l'Esprit-Saint. Je peux parler sur l'Esprit-Saint au niveau philosophique, en disant, ce serait admirable si dans la très sainte Trinité, il y a ce fruit merveilleux de l'amour du Père et du Fils. Mais c'est une possibilité que certaines traditions religieuses parlent. Et c'est merveilleux. Parce que ça confirme, et ça confirmerait, voilà ce que le philosophe dirait, ça confirmerait que l'amour d'amitié est quelque chose de très très important au plan philosophique. Donc c'est une confirmation, pas plus, puisque je ne peux pas le savoir. Je peux parler de l'Esprit-Saint au niveau de la théologie acquise. Si nous sommes croyants, si nous sommes intelligents, nous pouvons tous comprendre ce que c'est que la théologie acquise. Saint Thomas d'Aquin nous donne un manuel de théologie scientifique acquis. C'est l'œuvre de Thomas d'Aquin. Je ne dis pas du tout la somme et l'œuvre de l'Esprit-Saint. Oui, c'est l'œuvre de Thomas d'Aquin, aidé de l'Esprit-Saint. Mais c'est l'œuvre de Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin n'a jamais dit, après chacun des articles, j'ai reçu ça directement de Dieu. Comme certains aujourd'hui le disent. Puis on édite ce point de vue-là en disant parole de Dieu. Thomas d'Aquin sait trop bien ce que c'est que la parole de Dieu. Et c'est trop bien ce que c'est que l'intelligence humaine pour considérer que la somme théologique est une œuvre inspirée. C'est son œuvre. Mais il sait aussi que c'est une œuvre qui lui a demandé beaucoup de prières. Mais c'est pas parce qu'on a prié qu'on peut dire que ce qu'on va faire après, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Non, c'est notre œuvre. Aidé de l'Esprit-Saint. J'aimais beaucoup le théologien du pape précédent de celui qui est actuel, que j'aime aussi beaucoup. Vous savez bien que c'est toujours un dominicain qui est le théologien du pape. Et là, c'était le cardinal Chappi. Et quelqu'un, parce que ça, on reçoit assez souvent de ces choses-là, quelqu'un m'avait envoyé un manuscrit assez puissant, assez beau, en disant, j'ai écrit ça sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Puis je l'ai édité en disant que c'est sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Alors, j'ai détrouvé le cardinal Chappi. Le cardinal Chappi, à Rome, avait cet immense avantage. Je ne sais pas si le théologien du pape garde la même indépendance, c'est qu'il n'avait personne et que c'était lui qui ouvrait la porte quand on sonnait. Il habitait au Vatican. Il n'y avait personne. C'était lui. C'était très agréable, ça. Mais c'est un cardinal qui est resté un serviteur merveilleux, d'une humilité extraordinaire. Alors je frappe à sa porte. Il m'avait dit, chaque fois que vous venez à Rome, vous voulez me voir, vous pouvez venir, sans m'avertir. Si je suis pas là, je suis pas là. Si je suis là, je vous vois. Alors je lui ai donné ce chose, ce manuscrit. Puis je lui ai dit, est-ce que vous pourriez me dire si vous croyez qu'il y a inspiration ou pas? Elle lui dit, quel est votre critère? Comme je connaissais bien, je pouvais parler avec lui avec une liberté totale. Quel est le critère pour dire qu'il y a vraiment inspiration? Alors il m'a regardé, il me dit, Père Philippe, vous pourriez écrire des livres inspirés. Et vous savez que c'est vous. Et que c'est le Saint-Esprit qui se sert de vous. Mais que c'est votre travail. Que c'est votre prière. Tant que ça relève de la prière, on ne peut pas dire que c'est inspiré directement. Et donc, pour dire que c'est inspiré directement de Dieu, il faut que ça dépasse les connaissances normales d'un théologien et d'un homme de prière. Quand tout peut s'expliquer par la prière, ne disons pas que c'est inspiré. Disons tout simplement que c'est le fruit de la prière et du travail. Mais ne mobilisons pas l'Esprit Saint directement en disant « c'est l'œuvre de l'Esprit Saint ». J'ai trouvé ça d'une très grande sagesse et d'une très grande simplicité et d'une très grande vérité. Il faut le dire parce que c'est pas un secret, ça. C'est le théologien du pape qui considérait que c'était ça. J'ai dit ça à Marthe. Marthe a applaudi. Marthe a dit, c'est merveilleux, ça. Ayons l'humilité de reconnaître que ça peut venir de nous. Et ne m'abusons pas tout de suite le Saint-Esprit en disant que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Faut être très humble hein, pour reconnaître que c'est pas du Saint-Esprit. Reconnaître que c'est notre travail, c'est notre boulot, mais contemplatif. C'est normal quand on vit avec Dieu, quand on vit avec la Vierge Marie, de les connaître un peu. Je me souviens, c'est personnel, je m'excuse, mais ça vous aidera à comprendre. Jean Guiton, quand j'ai vu pour la première fois à Châteauneuf, il m'a dit, ah c'est lequel Père Philippe? Est-ce que c'est le Père Philippe qui a écrit le mystère de Marie ou qui a écrit sur Aristote? Elle a dit, c'est le même. Elle a dit, c'est impossible. Je dis, oui, c'est possible, puisque c'est moi qui l'ai fait. Dites pas que c'est impossible. Vous voyez, c'est très intéressant, ça, comme question. C'est pour ça que je vous l'ai dit. Puis il a posé une seconde question. Le livre sur Marie, l'avez-vous écrit avant de connaître Marthe ou après avoir connu Marthe? Puis il dit, avant. Je dis oui, c'est un livre de théologie. Marthe, je la connais comme une amie de Dieu, mais elle ne me fait pas un nouveau secteur théologique. La Vierge Marie, on la connaît à partir de l'Écriture et sous l'inspiration de l'Esprit Saint. C'est un livre de théologie mystique, mais de théologie. Vous voyez, il ne faut pas mobiliser trop vite l'Esprit Saint. Quand il y a des choses aujourd'hui qui paraissent comme des livres inspirés de Marie et de parole de Dieu, je dirais, je pourrais les écrire. Je pourrais les écrire, on a dit, c'est une locution d'Esprit Saint. Oui, mais je peux très bien dire que, que je dirais la même chose. Je ne crois pas que le Saint-Esprit agisse quand un de ses serviteurs, théologien, pourrait le dire. Vous voyez, le discernement, je crois que c'est important ça, parce que c'est du fidéisme pratique de ne pas faire cette distinction. Et dire tout de suite c'est le Saint-Esprit. Mais non, c'est vous qui êtes un saint homme. C'est vous qui êtes un homme de raison. Alors pourquoi dire que c'est le Saint-Esprit ? C'est vous, dans la raison. Dans la raison, j'ai découvert ça. Pourquoi pas dire ça ? Pourquoi dire tout de suite ? Ah ! C'est l'Esprit Saint qui agit directement. Mais vous n'en savez rien. Si vous dites quelque chose qui est au-delà de la connaissance humaine d'un croyant, ah, vous avez le droit. Oui. La Sainte Vierge m'a dit que le Christ reviendrait dans toute sa gloire à telle date. Ah, je ne vous le dis pas. Parce qu'elle m'a interdit de le dire. À telle date. Alors là, je pourrais dire que c'est une inspiration du Saint-Esprit. Parce que je ne peux pas savoir à quel moment le Christ reviendra dans sa gloire. Et ça ne me sera pas révélé. Je le sais. Parce que le Fils de l'homme ne le sait pas. Oui, c'est important ça, parce qu'il ne faut pas confondre la parole de Dieu et les inspirations particulières. C'est très très important de faire cette distinction pour ne pas tomber dans le fidéisme qui est condamné par l'Église. Qu'on aime certains livres qui disent et qui se disent comme des révélations privées. Très bien, ça dépend. Chacun. Et c'est une révélation privée. Je ne peux pas construire une théologie sur une inspiration privée. Une inspiration privée n'est pas un principe qui permet, à partir de là, de mieux comprendre le mystère de la très sainte Trinité, le mystère du Christ, le mystère de l'Église. Tandis que toute parole révélée dans la Bible, c'est l'Église qui dit que tout ce qui est dans la Bible, et paroles révélées de Dieu. Paroles de Dieu. Et la théologie, c'est à partir de la parole de Dieu. Mettre mon intelligence de croyant au service de la parole de Dieu. C'est ça la théologie. C'est très important de comprendre ça. Et voir comment la théologie a commencé. La théologie a commencé chez les pères de l'Église. Les pères de l'Église, saint Augustin ne dit pas, quand il écrit les confessions, paroles révélées de Dieu. Écoutez bien ça. Non. Il raconte, dans la lumière de Dieu, ce qu'il croit devoir dire. Sur la manière dont l'Esprit Saint l'a conduit. Saint Augustin, quand il écrit son De Trinitate, son livre sur la très sainte Trinité, ne dit pas révélation privée d'Esprit Saint. Il dit que c'est son œuvre, qu'il a prié, et qu'il faut prier, et qu'il faut parler de la très sainte Trinité. Mais il ne dit pas que c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. La théologie a commencé comment ? Quand vous regardez chez les pères de l'Église, elle a commencé pour défendre en face des attaques. Le mystère de la parole de Dieu. Des croyants. Elle a relevé toutes les erreurs qui pouvaient être dites sur le mystère de la très sainte Trinité. Sur le mystère du Fils. Sur le mystère d'Esprit Saint. Elle a relevé toutes les erreurs qui pouvaient se dire sur le mystère de l'incarnation, sur le mystère de la rédemption. Elle a relevé toutes ces erreurs pour répondre. Donc elle a commencé par une défense de la foi face aux païens, face aux hérétiques. Et à partir de là, elle a essayé de donner une intelligibilité plus profonde de la parole de Dieu. Selon cette parole très belle, que la parole de Dieu est une pierre précieuse, c'est une sorte de silex très puissant. Et quand j'ai deux textes de l'Écriture qui semblent en contradiction, je les frotte l'un sur l'autre d'où jaillit la lumière. Prenez par exemple, je vous donne un texte tout simplement, vous avez deux récits de la Genèse, deux récits de la création dans la Genèse. Vous pouvez très bien dire, oui, il y a deux récits, oui, parce qu'il y a deux sources différentes. Il y a une source de tradition religieuse yaviste, l'autre héloïse. Mettez des étiquettes. Puis vous dites ça, c'est tout. Vous pouvez creuser, dire pourquoi ces deux récits. Le Saint-Esprit ne nous donne pas cela uniquement pour le plaisir qu'il peut nous donner deux récits de la création. Le Saint-Esprit ne nous donne jamais des répétitions. Jamais. Pourquoi ces deux récits ? Et je pourrais me poser la question pour tous les doubles qui existent dans l'Écriture. Pourquoi deux récits ? Il y a sûrement une raison. Parce que tout ce qui vient de Dieu est intelligent. Rien n'est vain, ce qui vient de Dieu. C'est peut-être parce que lorsqu'il s'agit de regarder une très belle statue, une très belle œuvre d'art, j'aime bien avoir deux points de vue différents. On a deux yeux pour les reliefs. C'est vrai, on a tous fait cette petite expérience. De regarder une très belle statue du 15e siècle, du 16e siècle, sous des aspects différents. On peut même prendre des photographies diverses. Vous savez, cette petite histoire de la belle Acharie, du livre de la belle Acharie. Il y avait le buste de Marie d'Incarnation. À Créteil, à Carmel, très strict. Je crois que le plus strict de France. Il y avait le buste de Marie d'Incarnation, le seul qui existe en France. Alors un père Carme, d'heureuse mémoire, écrivait un livre sur Marie d'Incarnation. À la place de mettre Marie d'Incarnation, il mettait la belle Acharie. Parce qu'il voulait montrer la vie avant le Carmel et après le Carmel. Il s'étendait beaucoup sur la vie avant le Carmel et après le Carmel. Alors ça l'intéressait, en tant qu'il était un peu artiste et un peu psychanalyste, d'essayer de montrer que dans le buste de Marie d'Incarnation, on retrouvait la belle Acharie. évidemment, si on avait donné la photo du buste telle qu'elle est, on ne voyait pas beaucoup la belle carie. Mais si on prenait les yeux, la bouche, le front, 40 photos, on pouvait à ce moment-là découvrir la belle carie. Alors, évidemment, il n'a pas demandé la permission à la prieure du Carmel de Créteil de prendre 40 photos diverses. Est-ce que je peux prendre la photo ? Le prieur a dit, c'est sûr, c'est un père de l'ordre. Donc, il a pris la photo. Et quand le livre est paru, la prieure a dit, je la connais, alors c'est pour ça que je fais des prières de ce temps, c'est plus elle. Qu'est-ce qu'on a fait de mon buste ? Qu'est-ce qu'on en a fait ? Pour montrer toute la vie entière. Et c'est très très joli ça, moi je trouve ça très joli, parce que ça montre comment on peut regarder les choses sous des points de vue très différents. C'est sûr. C'est une illustration de ce qu'en philosophie on appelle... moins édifiante que le buste. Et on se servait du buste pour expliquer certaines choses. C'est tout à fait un artiste, hein. Le père Bruno, puisqu'il s'agissait du père Bruno, le père Bruno Carme, qui s'intéressait, puisqu'il était psychanalyste, il s'intéressait à voir avant et après. L'Esprit Saint est encore plus intelligent que le père Bruno, est encore beaucoup plus intelligent que tous les psychanalystes. L'Esprit Saint aime, de temps en temps, de se servir de deux traditions pour nous faire comprendre que le mystère est toujours au-delà d'une seule tradition. Et que pour comprendre le mystère, on peut y aller avec des voies différentes. Et c'est, je crois, la raison pour laquelle, dans l'écriture, il y a ces doublés. Et donc on doit se demander pourquoi. Premier récit de la Genèse. Premier récit dans la Genèse de la création, on nous montre un schème que les évolutionnistes peuvent se servir. C'est pas que l'Esprit Saint plaide l'évolutionnisme, non, c'est autre chose. Il donne un ordre extrêmement beau, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième, sixième. L'homme apparaît au sixième jour. Et septième, Dieu se reposa. Après avoir créé l'homme et la femme, je comprends, il y a de quoi. Il se repose. Il se reposa. Ce qui est le fondement du Shabbat. Dieu s'est reposé. Et avant, on donne l'ordre. Or, l'ordre le plus fondamental, c'est l'ordre dans le temps. L'ordre dans le temps. Tant que vous arrivez à discerner l'ordre dans le temps, vous tenez debout. Le jour où vous commencez à ébranler l'ordre dans le temps, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va plus. C'est l'ordre dans le temps. Et l'astuce, c'est d'essayer de voir à quel moment l'ordre dans le temps dévie. Puisque c'est l'ordre dans le temps qui est le plus fondamental au plan psychologique, qui est le plus radical. C'est pas l'ordre dans le lieu, c'est l'ordre du temps. Et Saint-Esprit nous donne cet magnifique exemple de l'ordre dans le temps. évident que ça ne s'est pas passé comme ça. Il n'y a pas eu un jour. Puis tu as travaillé toute cette journée. Puis second jour, tu as travaillé toute cette journée. Puis sixième, on va mettre un point final. Puis après, on n'a plus qu'à se reposer. Non, c'est symbolique. Mais c'est un symbolisme à travers l'ordre du temps. Et le second récit, c'est tout à fait différent. C'est la précipitation d'amour. Vous savez, quand on dit que l'ordre de l'amour n'est pas l'ordre de l'intelligence, l'ordre de l'amour n'aime pas beaucoup la patience. Les rendez-vous d'amour, on les respecte très peu selon le temps. Parce qu'il faut beaucoup de patience. Et alors, qu'est-ce qu'on voit dans le second récit de la Genèse ? Relisez ça, c'est intéressant. Il faut les relire souvent. C'est extrêmement instructif. Le second récit de la création dans la Genèse, c'est la précipitation de Dieu. Dès qu'il y a de l'argile et de l'eau, Dieu façonne le corps de l'homme. Ça ne s'est sûrement pas passé comme ça. La précipitation d'amour. Alors qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre ? C'est que la création est une œuvre de sagesse et une œuvre d'amour. Et que si je regarde la création dans l'optique de la sagesse, je discerne des choses tout à fait particulières. Mais le mystère de la création peut être regardé aussi dans l'optique de l'amour. Et à ce moment-là, je discerne autre chose. Eh bien, c'est le théologien, ça. Quand je fais ça, je fais œuvre de théologien. Pour vous donner l'intelligibilité de la parole de Dieu. Autrement, vous lisez le premier récit, le second récit. Puis vous ne réfléchissez pas du tout. Ou bien vous saisissez les contradictions. Ce qui est encore aussi. En saisissant les contradictions, croyant est mal à l'aise. Parce que vous critiquez la parole de Dieu. Alors que si vous saisissez la complémentarité, en voyant qu'il n'y a pas de contradiction, parce que ce sont deux points de vue totalement différents, et qui vont dire, ah, la complémentarité, c'est tout à fait différent. Vous entrez beaucoup plus profondément dans cette récit. Vous voyez, je crois qu'aujourd'hui, il est très important de comprendre ça. Parce que la théologie aujourd'hui reçoit de très gros coups. La preuve, c'est que vous avez des théologiens qui concluent des choses qui sont tout à fait contraires à la tradition. Pourquoi ? Parce qu'ils saisissent les oppositions. Ils ont un esprit critique. Et la foi n'est pas critique. Allier la foi à la critique, c'est un très mauvais alliage. C'est l'alliage du bœuf et de l'âne que l'Écriture condamne. Ça va pas du tout. On peut allier la parole de Dieu à une recherche humaine, philosophique, de sagesse. Autrement, je diminue la parole de Dieu. Et le psaume le dit, hein, les hommes ont diminué la parole de Dieu. Et c'est un reproche que l'Esprit Saint nous fait. On ne doit jamais diminuer la parole de Dieu. On doit comprendre que la parole de Dieu a des sens infinis. Alors nous essayons d'en comprendre un petit bout, puis c'est tout. Mais le chantier théologique est toujours ouvert. Je ne peux jamais dire c'est clos. C'est pour ça que je crois que Thomas d'Aquin est mort avant de terminer sa somme. Pour montrer que le chantier théologique est toujours ouvert. voyez, tout ce que les pères de l'Église ont dit, tout ce que les grands théologiens ont dit. Alors je peux dire, j'ai plus rien à dire. Si vous dites ça, ça prouve que vous n'avez pas compris le chantier de théologie. La parole de Dieu a des sens infinis. Et je peux toujours découvrir quelque chose de nouveau. Je me sers des théologiens. Je me sers de Thomas d'Aquin. Je m'en sers pour faire des gammes. Mais je ne répète pas Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin était merveilleux au Moyen-Âge. Et si je sers Thomas d'Aquin aujourd'hui, les gens sont... Alors que je crois que quand Thomas d'Aquin, lui, faisait de la théologie, personne ne s'endormait. Donc je sers un très mauvais service à Thomas d'Aquin en disant que sa théologie est un chloroforme de premier ordre. Très mauvais service. Mais je me sers de Thomas d'Aquin pour devenir un théologien. Et je suis un théologien du XXe siècle. Puisque je suis un serviteur. Vous voyez, quelqu'un qui se présenterait pour être un serviteur. Je suis un excellent serviteur du XIIe siècle. Et je ne peux servir qu'à la manière du XIIe siècle. Alors vous verrez ce que c'est. La cuisine d'abord, hein. XIIe siècle. L'électricité, le gaz, oh non, non, surtout pas. C'est des inventions modernes. Ça cuit mal, ce qui est très vrai, mais ils n'avaient rien. Ça cuit mal, c'est trop rapide. C'est au bois. C'est bien meilleur, le pain au bois. Il faut du temps. On est serviteur selon les mœurs du temps aujourd'hui. Je ne prendrai jamais le TGV. Parce qu'il n'existait pas du temps de Saint-Thomas. Alors il me donne de mauvaises idées. Des fantasmes faux. Ça va tellement vite. Mais non. On discerne ce qui est changé par la science. La rapidité des transports. Et ce qui n'est pas changé par la science. Qu'est-ce qui n'est pas changé par la science? Ce que la science n'atteint pas. Tout ce que la science n'atteint pas n'est pas changé par la science. Il y a beaucoup de choses que la science n'atteint pas. La métaphysique. L'âme spirituelle. Toutes les causes propres. La finalité humaine. Tout ça, la science n'atteint pas. L'anthropologie d'un être spirituel libre. La science ne change pas la liberté. Elle ne sait pas ce que c'est. La science ne change pas la fraternité. Elle ne sait pas ce que c'est. La science ne change pas la distinction entre l'agir et le faire. Les opérations morales, éthiques. Et les opérations artistiques. La science ne change pas l'art. Elle peut donner des idées nouvelles. Oui, ça je comprends. Je suis sûr que quand on va en avion, donc quand on sert de la technique, et qu'on voit un paysage sous la lumière, bien dans la hauteur, perspective de l'avion, on a des visions différentes, très différentes, persuadées que l'art abstrait, comme on l'a nommé, dépend de ça. C'est des visions différentes du monde et de l'homme, mais l'homme n'est pas changé dans son intelligence profonde, dans son cœur profond. La science ne change pas l'amour. La science aujourd'hui voudrait modifier beaucoup de choses. Modifier la procréation. Modifier la mort. Est-ce qu'elle a le droit de le faire? Ou bien alors est-ce que c'est une technique qui est malheureuse et qui risque de conduire l'homme au malheur à cause de l'hubris, comme diraient les Grecs, à cause de l'orgueil. On veut tout expliquer. On n'accepte plus le mystère. Donc vous voyez l'importance de la théologie. Discerner la parole de Dieu distincte de la parole humaine, si sainte qu'elle soit. Discerner ce que la science peut changer et ce que la science ne peut pas changer. Comprendre que la parole de Dieu a des sens infinis. La parole de Dieu pour moi est parole de Dieu comme pour Marie à l'Annonciation, comme pour Abraham à l'Annonciation des chaînes de Mamré. C'est substantiellement la même parole et donc la même foi qui permet de recevoir la parole de Dieu. La théologie doit défendre sa mordicus devant tous ceux qui donnent à la parole de Dieu un caractère relatif. Tout ce qui est relatif dans la parole de Dieu n'est pas de la parole de Dieu. Ça va loin, vous savez ça. Et je sais très bien que des quantités ne l'acceptent pas, ça m'est égal. La parole de Dieu est vérité et lumière. C'est dit. La parole de Dieu est comme un marteau. Parce que elle ne change pas. Mais la parole de Dieu a été donnée dans tel contexte, c'est sûr. Est-ce que ce contexte modifie la signification propre de la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu a été donnée pour le contexte ou pour l'homme? Ah, vous voulez savoir ça, hein? Est-ce que la parole de Dieu a été donnée pour le contexte? La parole d'Amos n'est vraie que pour Amos et les petits amis d'Amos ou les ennemis d'Amos. Quand Jésus parle, sa parole est donnée à ses disciples et uniquement à ses disciples et pour ses disciples. Ou est-ce que la parole de Dieu est donnée pour tous les hommes? Mais les hommes qui croient, pour le croyant. La parole de Dieu n'est pas donnée pour l'incroyant. L'incroyant ne comprend pas. Il ne comprend que ce qui n'est pas de la parole de Dieu. C'est-à-dire le contexte historique, psychologique, humain. Ça, il le comprend. Il peut le comprendre. Tout le monde peut le comprendre. Mais la signification profonde de la parole de Dieu, seul le croyant peut la comprendre. C'est le bien du croyant. Et c'est la vérité pour le croyant. Et seul le croyant peut le comprendre. Vous voyez, la théologie est importante pour discerner ça. La sagesse mystique, c'est celle qui relève du don de sagesse. Donc, comprenez bien ces trois aspects. Et on y réfléchira beaucoup. La Sophia, sagesse acquise, philosophique, qui regarde l'homme. dans sa totalité. Et donc, la fin de l'homme, la finalité de l'homme, ce pourquoi l'homme est fait. Sagesse théologique, acquise théologique. Celle-ci implique la foi en la parole de Dieu. Et elle cherche, elle regarde en premier lieu Dieu. Dieu se révélant. Et dans la lumière de Dieu, l'homme. Ses capacités. Et son milieu. Dieu regarde l'homme et le milieu dans lequel il est. Il regarde tout. Et le milieu dans lequel il est, je peux, d'une certaine manière, le regarder en dehors. Et là, j'aurai des sciences qui étudieront ce milieu. L'homme, je peux le regarder au plan philosophique. C'est vrai, je peux le regarder au plan théologique. Vous voyez, la même réalité peut être regardée sous des points de vue différents. Il y a trois grandes lumières, et puis la sagesse mystique. La sagesse mystique infuse. La foi est infuse. Et la théologie est acquise. Infuse. Elle regarde Dieu. Le Christ, sauveur. Elle regarde l'homme, ami de Dieu, ami du Christ. Et elle regarde l'expérience intérieure de l'homme. Mu par l'Esprit Saint, mu sous la motion d'Esprit Saint, donc les dons de l'Esprit Saint. De fait, il y a ces trois sagesses. Or, le propre de la sagesse, c'est d'ordonner. Ces trois sagesses sont à l'origine de trois ordres. Et de trois jugements de sagesse. Voyez comment cette distinction de ces trois sagesses ordonne tout, distingue tout. Et à l'intérieur de la sagesse acquise, je pourrais parler d'une sagesse mystique, mais acquise. Je peux essayer de comprendre comment la parole de Dieu, elle implique aussi l'amour. Vous voyez, l'amour peut être regardé d'une façon mystique. Quand saint Jean de la Croix écrit ses poèmes, c'est une sagesse mystique. Prenez le traité « Vie flamme d'amour » de saint Jean de la Croix. C'est un traité de théologie mystique. Mais théologie mystique, disons de sagesse mystique, infuse en partie. La petite Thérèse, quand elle raconte l'histoire d'une âme, il y a constamment l'expérience personnelle, infuse. D'un don de l'Esprit Saint. Tandis que la sagesse théologique acquise, elle elle va elle-même, puisqu'elle regarde la parole de Dieu, elle va elle-même connaître diverses dimensions. Il y aura une théologie biblique, une théologie scientifique, une théologie de l'Église, une théologie mystique. Tout ça est acquis. C'est quelque chose que je possède. Il y a un seul habitus, l'habitus de théologie. C'est la théologie, ça. Elle a trois dimensions. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu peut être regardée dans trois dimensions différentes. En tant que cette parole est donnée à travers une histoire, un développement. Cette parole de Dieu implique un enseignement. Cette parole de Dieu est gardée dans l'Église, la tradition. Cette parole de Dieu conduit à l'amour. Alors, c'est pour vous montrer que la théologie dans laquelle nous entrons, cette sagesse théologique, c'est un monde. Et dedans, on va regarder quelque chose de très important, la théologie de l'Esprit-Saint. La théologie de l'Esprit-Saint, je pourrais la regarder au niveau théologie biblique, au niveau théologie scientifique, au niveau théologie de l'Église, au niveau théologie mystique. Et vous me direz, l'Esprit Saint dans la vie de l'Église du monde, où est-ce que vous mettez ça? Ici. Non. Ceci n'est ni directement inspiré. Le pape ne dit pas c'est un livre inspiré. Non. Il le donne comme un enseignement, comme le fruit de sa méditation, de sa contemplation. Et ça fait partie de la tradition de l'Église avec un enseignement que nous devons tenir compte. Nous n'avons pas le droit de ne pas tenir compte de cet enseignement. On verra ça progressivement. Mais c'est important de bien comprendre qu'on entre dans une sagesse et on la situe par rapport aux trois sagesses. C'est la sagesse acquise. Tous les matins, vous faites oraison. Du moins, j'espère. Surtout pendant la session. Là, si le Saint-Esprit veut bien, il voudra une expérience intérieure de lui-même. Et vous pourrez me dire, « Ah, je ne peux pas dire ce que c'est tellement grand. » Mais, alors là, sagesse mystique.